Le Cambodge sur le bout de la langue avec Jean-Baptiste Fou.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
En sol majeur.
Avec toutes ces histoires de chinoiserie, Jean-Baptiste Fou aimerait bien qu'on lui lâche les baskets. Et puisqu'on en parle de ces baskets, disons quand même qu'elles lui ont fait faire un sacré chemin depuis notre premier en sol majeur il y a 11 ans. Passer de la case asiatique au sens un peu flou, avec dans le salon familial un Cambodge kitsch, karaoké et impossibilité à parler le khmer. Aujourd'hui, Jean-Baptiste Fou écrit, joue, met en scène et navigue de Paname à Phnom Penh, d'une identité à l'autre. Né à Paris de parents sino-cambodgiens, il aura accompli plusieurs révolutions entre le pays des râleurs et le pays du sourire. Car pendant longtemps, pour lui, être français en France, compliqué. Être cambodgien au Cambodge, difficile. Être homosexuel dans un monde hétéronormé, épuisant. Être gay d'origine asiatique, un combat. À 40 ans, voilà qu'il s'installe dans ses multiples appartenances avec zénitude et plusieurs actualités, dont le documentaire « La langue de ma mère »,« La peau hors du placard » et « 80 mots du Cambodge ». Rebonjour, Jean-Baptiste Fou. Est-ce que vous diriez que vous n'êtes plus vraiment le même depuis notre rencontre en 2013?
Oui, c'est vrai que ça fait un moment, plus de 10 ans, et j'ai évolué à la fois sur le plan personnel et aussi artistique. Les œuvres que vous citiez tout à l'heure, ce sont des formes que je n'avais pas du tout l'habitude d'aborder. Moi, j'étais dans le théâtre à l'époque, en tant que comédien, metteur en scène, et puis voilà, entre-temps, j'ai abordé d'autres sujets, déjà d'une part, notamment la question de l'homosexualité, mais puis aussi touché à d'autres formes d'art, notamment l'image et puis l'écriture.
On va raconter tout ça. Vous arrivez effectivement les bras chargés de livres, mais pas seulement, puisqu'on va commencer par ce très beau documentaire que vous signez, intitulé « La langue de ma mère ». C'était quoi l'idée de ce doc ?
À l'origine, c'était une commande de l'Institut français au Cambodge, où je vis depuis 7 ans. Donc le directeur m'avait demandé de créer une œuvre sonore qui allait tourner en France pour une exposition dont lui était le commissaire. Et donc il m'avait donné comme thème... le textile.
Oui.
Donc on est un peu loin. Je me suis plutôt imagé ça, les fils comme étant des connexions. Et je voulais parler de la langue, en fait. Moi, étant né en France, de parents cambodgiens, mais sino-cambodgiens, donc il y a ces trois couches. À la maison, on parlait une espèce de mélange entre du téti ou du français, j'entendais du khmer. Et tout ça était entremêlé. Donc je voulais démêler tout ça avec ce film.
Vous allez continuer à nous raconter après un premier extrait qui est franchement à regarder, mais aussi à écouter. C'est à 8 minutes 16 de « La langue de ma mère ».
Elle.
Elle comme. Langue d'amour.
Je me lance dans un apprentissage effréné du khmer.
Ça, j'arrive pas à dire.
Ça, c'est pour le groupe A. Il y a 21 voyelles, tu vois, et 21 graphèmes, mais que les phonèmes, ça fait pas tout à fait le double, mais à peu près 20, tu vois, donc ça fait à peu près 40.
Tu peux dire chungoy chungan?
Chungoy chungan.
Non, pas chungoy. Chungoy. Chlang chungan, mon chan chloy.
Chlang
chungan. Langue d'amour. Langue au chat.
Et nous voilà dans notre abécédaire en sol majeur, Jean-Baptiste. C'est vrai que c'est un challenge incroyable que de s'embarquer, comme vous l'avez fait à l'âge adulte, dans l'apprentissage d'une langue maternelle qui n'a pas été transmise. Parce que d'accord, il y avait plusieurs langues à la maison, vous le racontez, mais vous êtes profondément de langue et de culture française. Donc ça correspond à quoi ce ressenti, ce besoin d'aller vers la langue source, la langue première ?
C'était une façon pour moi de me réapproprier une partie de ma culture qui ne m'a pas été transmise en tout cas étant enfant. Donc le cambodgien ou le khmer on dit, c'est une langue voilà, que j'ai essayé d'apprendre en étant adulte. Et moi j'ai commencé à m'intéresser au Cambodge très tard, j'avais 25 ans quand j'y suis allé la première fois. Et je lisais des livres, je regardais des documentaires, j'ai même essayé d'apprendre la danse classique cambodgienne. Enfin, il y avait une démarche de réappropriation culturelle et pour moi la langue c'était évidemment un vecteur très fort en fait. Tant que je ne maîtrisais pas cette langue, je n'avais pas accès, puis même une communication avec les personnes cambodgiennes.
Avec votre mère en fait.
Notamment.
Ah bah c'est central.
Oui,
c'est le poteau mitant de votre histoire à vous aussi. Ouais. Alors justement, est-ce que vous comprenez pourquoi elle ne vous l'a pas transmise, sa langue ?
Il y a plusieurs hypothèses. Alors, je dis hypothèses parce qu'on n'en a jamais parlé et puis maintenant, elle est décédée. Mais je pense déjà, étant donné qu'elle est sino-cambodgienne, l'identité chinoise était quelque chose d'assez fort pour elle. Elle s'identifiait avant tout comme une personne Tétiou. Donc, Tétiou, c'est une ethnie, un groupe dialectal du sud de la Chine, dans la région de Canton. Et donc, c'est cette langue-là qu'elle a voulu nous parler. Même si, par exemple, mon père, lui, n'est pas Tétiou, il est d'une autre ethnie chinoise qu'on appelle Hainan. À la maison, c'était du Tétiou. Et ma mère, elle-même, est sino-khmer. Donc, elle a des origines khmer.
Donc, elle est métisse.
Elle est métisse, voilà. Mais elle s'identifiait comme chinoise. Donc, je pense qu'il y a déjà une première raison qui est celle-ci. Et puis, je pense qu'il y a aussi un stigmate, en fait, vis-à-vis de cette langue khmer, parce que on connaît l'histoire tragique du Cambodge, les Khmers rouges donc, qui ont perpétré un génocide dans les années 70. Il y a peut-être une violence qui est associée à cette langue, d'autant plus que pendant le régime Khmer rouge, ceux qui n'étaient pas Khmers étaient persécutés, notamment les Chinois du Cambodge, les Vietnamiens, les Cham. Donc quand on affichait un trait culturel différent des Khmers, il y avait une persécution. Je pense que c'était peut-être aussi quelque part une espèce de résistance, de dire on a voulu nous effacer cette partie de notre culture, donc je parle de la culture chinoise, donc la transmettre à mes enfants.
Alors vous, Jean-Baptiste Fou, qui avez baigné dans un melting pot linguistique en même temps à la maison, c'est drôle parce que vous dites dans ce documentaire que longtemps vous avez envié les gens qui n'avaient qu'une seule langue. Mmh. Mais en fait, votre drame, le mot est fort, mais disons votre drame à vous, personnel, le fait de ne pas parler khmer, ça vous donnait l'impossibilité à poser certaines questions à votre mère. Et vous aviez plein de questions dans le couffin. Lesquelles, par exemple ?
Déjà savoir qui étaient les autres membres de ma famille, ne serait-ce que mes grands-parents. Par certaines recherches personnelles, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait un des grands-parents qui était khmer, les autres chinois, mais je ne sais pas, la vague d'immigration, quand ils sont arrivés, dans quel contexte, quel était leur métier, où est-ce qu'ils ont vécu, comment, je ne sais absolument rien.
Il y a ça, et puis il y a la question du génocide lui-même.
Et ça, c'est encore hyper flou et je pense que ça reste un tabou dans la famille, dans la mienne et dans de nombreuses familles, parce qu'il faut voir ce que ça porte comme poids. C'est-à-dire lorsque des frères et des sœurs ont été tués, on ne sait même pas, parce que parfois, juste ils disparaissent et on ne sait pas où ils sont enterrés, dans quelles conditions, etc. Parce que eux, mes parents, en fait, ils sont partis avant la chute de Phnom Penh, donc ils ont pu échapper à ça. C'était les seuls de leur famille. Donc mon père, il avait une dizaine de frères et sœurs. Et du côté de ma mère, c'était 5, 6, je ne sais pas non plus. Et parfois, j'entends dire qu'il y a un frère qui est mort. Parfois, on dit, mais non, il n'y a pas eu de frère. Enfin, voilà, c'est un peu flou tout ça.
Difficile de reconstituer tout ça. Ce qui est intéressant dans votre histoire, c'est qu'à un moment donné, on va dire que le français ne vous suffit plus. Donc, vous allez vers cette quête linguistique, apprendre cette langue khmer. On entendait un extrait de la langue de ma mère. Vous avez du mal parce que d'abord, il y a une difficulté. Cette langue est dotée d'un très très long alphabet, 74 lettres.
Tout à fait. Donc là, dans l'extrait qu'on entendait, c'était un cours avec ma première prof qui essayait de m'expliquer la difficulté des sons qui changent, etc. Donc effectivement, 74 lettres écrites, 20 voyelles. Alors imaginez, alors, en français, je crois qu'il y en a 5 ou 6. Alors là, les O, A, A, il y a toute une sorte de variation. Mais c'est notamment dû au fait que ce n'est pas une langue tonale, contrairement aux autres langues de la région, comme le vietnamien ou le thaïlandais ou le lao. Et le khmer, comme ce n'est pas une langue tonale, c'est l'ouverture des voyelles ou la subtilité des voyelles qui fait que les mots vont donner des sens différents.
Alors, on vous suit dans cet apprentissage très rugueux, très âpre, hein, mais vous vous accrochez et puis finalement, vous arrivez à faire des phrases. Et puis, il y a même ce moment où vous êtes installé au Cambodge. Votre mère aussi, elle est repartie au Cambodge, mais vous n'êtes pas dans la même ville. Et un jour, vous êtes en train de manger ensemble et vous êtes très fière de héler le garçon pour lui dire une phrase en khmer. Et là, votre mère est absolument impitoyable. Elle vous dit, c'est pas du tout comme ça qu'on prononce. Oui, c'est vrai. Hein
oui, oui, tout à fait.
Un peu castratrice quand ouais. même, maman, linguistiquement parlant. Elle ne vous le transmet pas, mais elle vous corrige sans pitié.
Oui.
Mais il y a un moment donné où ça va basculer, parce que votre mère tombe malade gravement, elle a un cancer, et vous allez jouer un rôle déterminant, hein, vous allez la protéger dans son parcours médical, et vous raconter cette première fois où elle vous parle en Khmer.
Hélas, oui, c'était un moment un peu triste, parce que, enfin, à la fois triste et un moment que j'attendais depuis longtemps, parce que voilà, moi j'ai toutes ces tentatives d'essayer d'aller vers elle en essayant de parler sa langue. Et lorsque finalement, la première fois qu'elle s'adresse à moi en Khmer pour me dire Khon, en fait, Khon Chui Mak Prang, qui veut dire aide-moi mon fils. Et donc là, elle était complètement désemparée parce qu'elle était alitée, elle ne pouvait pas bouger, et puis elle baisse sa garde, elle me dit ça. Donc il y avait ce sentiment très contrasté en moi, dire ah, finalement, ces mots arrivent, mais dans ce contexte-là.
C'est la première fois qu'elle vous dit mon enfant en Khmer.
Exactement. Soudain, tu recouvres tes esprits et la parole. Comme si tu revenais à toi. Tu me remercies pour ce que j'ai fait. Me dis que sans mon intervention, tu serais déjà morte. Encore une fois, je reste sans voix.
Vous êtes clairement sur RFI et du côté d'En Sol Majeur avec donc La langue de ma mère, votre documentaire Jean-Baptiste Fou. C'est une longue lettre d'amour, hein, en fait, ce documentaire que vous adressez à votre mère. Ça, c'est pour le fond, mais il y a aussi la forme. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on voit à l'image durant cet extrait qu'on vient d'entendre ?
Alors, le dispositif est un peu expérimental, parce qu'effectivement, comme je le disais tout à l'heure, au départ, c'était une œuvre sonore. C'est devenu un film dans un deuxième temps parce qu'on voulait pouvoir le montrer au Cambodge. Et là, comme c'est uniquement en français, et donc il fallait ajouter des sous-titres en anglais et en khmer. Et donc, c'est posé la question de qu'est-ce qu'on va montrer à l'image. Et là, j'ai eu l'idée, plutôt que d'en faire un film classique, c'est-à-dire aller filmer des images, parce que je ne voulais absolument pas, je voulais que le son reste central. Et à partir du moment où on met des images, c'est fini. Le son devient quelque chose qui va illustrer en fait, l'image. Et je voulais que ce soit le contraire.
Sauf si on est chez Godard.
Oui, mais je ne suis pas là.
J'ai rien dit.
Et donc, j'ai travaillé avec une artiste visuelle qui s'appelle Saus Remar, qui fait du dessin digital sur photographie. Donc, moi, j'ai fait une série de photos qui représentent certaines scènes du film. Et elle, sur ces photos-là, il y a un trait de crayon qui se dessine au fur et à mesure de la narration. Donc là, c'était l'illustration, c'était un coin d'une pièce avec une radio. Et le personnage qui se révèle, c'est moi en train d'attendre. C'est moi juste recroquevillé sur moi-même. Parce que voilà, là, le contexte, c'est qu'on est en pleine période Covid. Je suis au Cambodge, ma mère tombe malade. On ne peut pas la rapatrier en France. Les hôpitaux sont surchargés, on ne peut pas l'hospitaliser. Donc, elle est à domicile. Et puis, c'est des journées interminables à juste attendre et prendre soin d'elle.
Il y a aussi ce moment où vous racontez que vous maîtrisez enfin la langue khmer. Et donc là, à l'image, ce qu'on a, c'est la photo de votre bouche, un plan très, très, très rapproché. Votre bouche, d'où sortent des racines qui sont, elles, dessinées à la craie blanche. C'est-à-dire qu'on est dans la métaphore, quand même, là.
Oui.
Vous nous entraînez dans un univers presque poétique.
Ah oui, parce que pour moi, ce que je raconte, c'est comme vous disiez, c'est une lettre. Mais j'ai tenté d'y mettre aussi un peu de poésie, de subtilité. Et l'image reflète ça. Et ces racines qu'on voit, non seulement elles traversent, mais elles percent, elles trouent la bouche. Et donc, il y a à la fois ce côté poétique, mais aussi violent. Parce qu'il y a ces racines qu'on essaie de se réapproprier, mais qui finalement, est-ce que le fait de les faire entrer en nous, c'est quelque chose qui nous fait du bien ou qui nous blesse ?
Et alors, c'est une question que vous vous posez ?
Je continue à me poser, mais aujourd'hui, je fais avec. C'est-à-dire, je sais que j'ai cette dualité, ça fait du bien et ça fait mal en même temps, mais je ne pourrais pas faire autrement, parce que maintenant, c'est en moi, et je ne peux pas les extraire, ces racines, de mon corps.
Oui, Jibé, ça va ? C'est maman. Jibé, maman, n'a qu'une ta. Aujourd'hui, là, papa, mon Dieu, t'as ce soir. Si toi, y attends, on va dîner ensemble. Réponds maman, hein. Oui, Jibé, ça va? Hiệu cú, maman, bon ngọ, ghê. Maman, siêu lý. Depuis longtemps, j'ai pas vu. Ça s'est bon, mi cai, hein. Jibé, aujourd'hui, c'est anniversaire de toi, hein, ce c'est. Joyeux anniversaire, chérie. Et ce soir, tu fais quelque chose? Je fais une gros bisous.
La langue de ma mère, dans votre ensemble majeur, Jean-Baptiste, donc qui se termine sur ces messages laissés par votre mère sur votre messagerie. Donc dans ce français, on va dire, si maternel, c'est incroyable, elle vous appelle JB.
Oui, c'est drôle. Mais c'est arrivé assez tard, parce qu'au début, elle m'appelait toujours par mon nom chinois, qui est Dong Qiang. En fait, je crois que je le date à peu près du moment où je suis parti vivre au Cambodge. Elle ne m'appelait plus par mon prénom chinois, mais par JB.
Et alors, est-ce que vous revendiquez vous-même un prénom plutôt qu'un autre ?
Pour moi-même, non. En fait, j'utilise systématiquement mon prénom français. Même quand je suis au Cambodge, on m'a demandé « Est-ce que tu ne veux pas te prendre un nom khmer ou utiliser ton nom chinois ?» J'ai fait « Bah non, sur mes papiers, c'est Jean-Baptiste, ça restera Jean-Baptiste. » Après, il y a des variantes. Au Cambodge, on dit Jean, Baptiste, Jean-Baptiste.
Vous vous reconnaissez ?
Ah
dans,
oui, moi
dans Jean-Baptiste ?
Oui, tout à fait, tout à fait.
Donc, de fil en aiguille, parce qu'il y a vraiment un fil d'Ariane dans votre histoire, Jean-Baptiste Fou, voilà que vous publiez chez l'Asiatech 80 mots du Cambodge. Alors c'est magnifique parce que ça c'est un autre voyage aussi qui peut surprendre parce que vous n'êtes ni historien ni linguiste. Je me demandais si c'était un peu les mots d'un analphabète devenu écolier artiste compulsif.
C'est possible. Et d'ailleurs, lorsque l'Asiatech m'a approché pour écrire ce livre, parce que c'est une collection, hein, les 80 mots du monde, ils ont les 80 mots de l'Inde, de l'Afghanistan, du Maroc, etc. Donc quand ils m'ont approché pour celui du Cambodge, j'ai été le premier surpris en me disant « Mais attendez, je ne suis pas un expert en langue. Loin, loin, très loin de là. » Et en fait, ce qui m'a intéressé dans cet exercice-là et pourquoi j'ai dit oui, je me suis dit « Bah pour... » Au lieu de prétendre savoir expliquer l'étymologie des mots ou leur contexte, etc., moi, je sais raconter des histoires, c'est ce que je fais, c'est ce que j'aime faire en tout cas, et j'ai envie de développer plus mon parcours au pays, mais à travers une succession de mots. Et là, on parlait tout à l'heure de la langue de ma mère, donc c'est un rapport très intime à la langue, mais là, je voulais faire quelque chose un peu plus ludique, donc une espèce de voyage avec moi sur toutes ces anecdotes au pays du sourire à travers les mots.
Donc chaque mot raconte un pan de votre vécu dans ce Cambodge. Et par exemple, page 51, voilà ce que vous racontez.
J'étais comme un poisson dans l'eau, assis derrière le conducteur du motodop. J'aimais qu'on se faufile entre les voitures en frôlant les autres motos. Je me sentais totalement libre, bien vivant, à rouler sans casque, à tombeau ouvert. Je m'en prenais plein le nez, entre les pots d'échappement et les ordures qui macéraient sur le trottoir. Au milieu de la circulation, j'apercevais quelquefois des familles entières sur un scooter. Le père conduisant, un bambin debout, devant lui, agrippé au guidon, et derrière lui, sa femme avec un, deux, voire trois enfants. Tout le monde tenait en équilibre et personne ne semblait conscient du danger que cela représentait. Parfois, c'était des cochons, des poulets, des fruits, des marchandises, des meubles que l'on transportait à l'arrière de son deux-roues. J'avais désormais le plan de la capitale en mémoire et c'est moi qui guidais le conducteur. J'appris très rapidement les premiers mots qui permettaient de naviguer. Et sur la route, j'avais souvent en tête le tube rock de Yo Olarang, Ticiclo, Botchwing, Botsdam, Pleung Stop, Feu Rouge. Il devait sûrement y en avoir dans les années 60 quand la chanson avait été écrite. Mais en ce début des années 2000, les feux de circulation étaient inexistants. Ah bah oui, il nous fallait bien ce tube rock de Yos Olarang dans votre sol majeur, cher Jean-Baptiste.
Pourquoi ce titre, en fait? Est-ce que ça vous évoque quelque chose à vous qui êtes un enfant millénaire, du millénaire?
Oui, parce que c'est des chansons qu'écoutaient mes parents. En fait, à la maison, à la radio, il y avait RFI qui tournait tout le temps. Et puis, ils écoutaient les tubes rock des années 60-70. Eux, ils avaient baigné dedans. Donc, ces titres-là, comme ceux de Since So Mood, Penran, enfin voilà, c'était des choses qu'on entendait en boucle à la maison et qui chantaient même au karaoké.
Alors, avec ce court extrait qu'on vient d'entendre à l'instant de 80 mots du Cambodge, là aussi, c'est magnifique de voir le chemin parcouru parce que longtemps, votre Cambodge, il a été synonyme pour vous de tableaux un peu lointains et surtout très kitsch, lié à une histoire traumatique, celle du génocide des Khmer Rouges. Et aujourd'hui, c'est votre quotidien, comme on vient de l'entendre. Et ça, ça change absolument tout. Ça change quoi?
Ça change que c'est plus un pays fantasmé. C'est devenu un pays dans lequel je vis. Et toutes ces projections-là que je m'étais faites en grandissant ou même pendant mes premiers voyages, il y avait une espèce de fantasme, dans les deux sens d'ailleurs, le fantasme du pays de l'horreur, du génocide, de la guerre, de la souffrance. Et puis il y a aussi de l'autre côté le fantasme de ses origines, où on va être accueilli comme l'enfant du pays, le retour. Et en fait, c'est ni l'un ni l'autre. C'est pour moi simplement aujourd'hui un pays dans lequel je me sens bien, où j'ai décidé de vivre, où je vis depuis 7 ans. En fait, toute la charge émotionnelle, passionnelle, elle est moins présente aujourd'hui. Et c'est devenu un pays dans lequel je suis apaisée.
On va y revenir, mais on reste une seconde sur la langue khmer.
Oui.
Si vous deviez définir votre relation à ce pays aujourd'hui avec des mots en khmer, ce serait quel mot?
Ah, vous me posez une colle là. Aujourd'hui, je dirais peut-être Ekeriek, qui veut dire indépendant. Alors, quand je dis Ekerik, ce n'est pas l'indépendance comme on pourrait l'entendre, l'indépendance par rapport à la France, ou liberté. Indépendance ou liberté, pour moi, c'est un pays où je me sens libre de pouvoir être qui je suis, de pouvoir me réinventer, de pouvoir explorer des nouvelles formes d'art, l'écriture, de livres, d'œuvres sonores, de films. Tout ça, c'est des choses que j'ai commencé à faire au Cambodge. Et puis même moi, en tant que personne, c'est-à-dire en France, moi, je suis pratiquement constamment renvoyé à cette identité asiatique, quel que soit mon type d'interaction, que ce soit professionnel, amoureux, artistique. Et donc, il y a quelque chose de... un enfermement. Mais que là-bas, je n'éprouve plus parce qu'on ne me renvoie plus à ces sujets-là. Et moi, du coup, comme je ne suis plus enfermé dans cette prison mentale, je peux aller n'importe où et explorer des choses ou me poser des questions que je ne me poserai pas forcément quand je suis ici.
Moi, j'en ai encore plein de questions quand même. Par exemple, sur quel mot, Khmer toujours, vous butez encore?
Alors, il y en a un, par exemple, Tchengang. Tchengang qui veut dire bon. Ce plat est bon. Mahopni Tchengang. Et même ce mot-là, ce mot tellement simple et basique, j'ai encore du mal à le dire.
Enfin, pas en face de moi, en tout cas.
Je pense que les natifs qui nous écoutent vont dire « Ah, il écorche là ».
Ils font la différence.
Tout à fait.
Alors, vous dites joliment que la graphie khmer vous fait penser à des serpents entremêlés. C'est vrai que l'image, elle convient bien. Et bien sûr, à un moment donné, vous en arrivez à l'étymologie même du mot khmer. Mais là, je laisse les lecteurs le découvrir, c'est page 29. J'ai plutôt envie, Jean-Baptiste, que vous nous racontiez, par exemple, pourquoi vos parents, lorsqu'ils vivaient en France, nommaient les Maghrébins les Cham?
Ça, c'est intéressant. Alors, Cham, en fait, c'est une ethnie qui est du Champa. Et le Champa se trouve sur l'actuel Vietnam. Donc, ça a été colonisé. Et puis ensuite, le royaume a disparu. Et donc, les Cham, qui à l'origine étaient un peuple hindouiste, une partie d'entre eux se sont convertis à l'islam et ceux convertis à l'islam sont partis au Cambodge dans cette vague de migration. Et aujourd'hui, ça représente une population minoritaire, donc Cham, mais de confession musulmane. Et donc, pour les Cambodgiens de l'étranger, ils font cet amalgame, cette association. Tous les musulmans sont des Cham, alors que ce n'est pas du tout l'ethnie.
On appréciera.
Voilà. Ouais. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'ils disaient Cham. Et en plus, dans leur bouche, et dans la bouche de nombreuses personnes immigrées, quand on dit ça, c'est un peu péjoratif.
Mais c'est intéressant parce qu'on vogue avec le sens du langage, selon les vécus, etc. C'est pour ça que ces 80 mots du Cambodge sont bien précieux. Aujourd'hui, donc, vous le disiez, Jean-Baptiste, vous vivez à Phnom Penh, où vous avez même acheté une maison. C'est-à-dire que là, on est dans le dur, vous avez tâté des us et coutumes locales, financières et autres. Et au moment de signer l'acte de vente, vous racontez qu'un fonctionnaire vous a expliqué que vous deviez d'abord avoir l'accord des voisins.
Oui, alors ça c'était oui, pour faire des travaux, même des travaux de rénovation chez soi, il faut que les voisins approuvent et qu'ils pouvaient même bloquer les travaux si jamais ils n'étaient pas d'accord. J'ai dû glisser quelques billets pour que la démarche se fasse de façon plus accélérée, parce qu'on vous donne le document, on vous dit bah, « maintenant, allez taper à la porte de chez les voisins et demander leur accord pour qu'ils signent ». Et moi, j'étais paniqué, j'ai dit « mais je ne vais pas faire ça, enfin, je parle à peine le Khmer, comment je vais leur expliquer ce que je veux faire, etc. » Et puis là, le fonctionnaire dit « ah, mais si vous voulez, moi, je peux vous aider ».
Voilà, vous avez encouragé la corruption. Faute à moitié avouée, à moitié pardonnée.
J'ai épousé des coutumes locales, on va dire ça comme ça.
Comment vous avez décidé très très sérieusement d'aller vivre au Cambodge? Parce qu'au début, vous racontez que cette idée vous faisait peur. Vous imaginiez même des phénomènes surnaturels vous arriver. Et vous avez même ressenti ce qu'on appelle le syndrome de Stendhal. Qui est, rappelez-nous?
C'est une espèce d'état de sidération face à de la beauté, à une œuvre d'art ou à de l'architecture.
Oui, et face à un tableau, je ne sais pas, qui peuvent représenter les temples d'Angkor, il y a une projection de vous-même dans ce tableau, vous vous y voyez?
Oui, parce que moi j'ai grandi avec ce tableau d'Angkor Wat, une peinture du tableau d'Angkor Wat immense, qui faisait, je ne sais pas, 2 mètres, 3 mètres, qui était au-dessus du canapé, donc ça envahissait tout le salon. Quand j'y vais pour la première fois, j'avais l'impression de rentrer dans le tableau, de vraiment marcher sur ces morceaux de pierre immenses que je voyais tous les jours. Et donc là, ça m'avait fait un effet très, très étrange, effectivement.
Et alors cette décision, se dire « j'y vais, je fais le grand saut », comment c'est venu ?
Progressivement, parce que les premiers voyages que j'ai faits au Cambodge, il y avait cette charge émotionnelle dont je parlais avant, ce côté très lourd. Mais le grand saut s'est fait plus tard, en 2017, lorsque j'ai postulé pour un travail qui m'a été offert. J'étais directeur d'une ONG qui s'appelle Cambodian Living Arts. Après, j'en suis devenu le directeur créatif. Donc, c'est ça qui m'a fait prendre cette décision, parce qu'il y avait une structure, un cadre. Exactement.
Qui était le travail. Donc, la langue, l'histoire avec un grand H, le pays, autant de conquêtes de faites et quasiment de gagnées, Jean-Baptiste, mais avec La peau hors du placard que vous publiez, vous racontez là une énième autre quête.
Il avait de grands yeux, très clairs. Parfois passaient des éclairs comme au ciel, passent des oranges. Il était plein de tatouages que j'ai jamais très bien compris. Son cou porté, pas vu, pas pris. Sur son cœur, on lisait personne. Sur son bras droit, son nom, je ne sais rien de lui. Il m'a aimé toute la nuit, mon légionnaire.
Quand vous entendez Gainsbourg, dans sa période Gainsbar, chanter mon légionnaire, qu'est-ce que ça vous évoque? Vous avez déjà un sourire incroyable.
Moi, ça me rappelle des beaux souvenirs. Enfin, moi, j'adore Gainsbourg, enfin, cette période-là en particulier. Après, j'étais vraiment enfant à ce moment-là. Mais cette chanson en particulier, elle est importante parce que c'était la première fois que j'entendais un homme chantait l'amour pour un autre homme. Alors que moi, j'avais, je sais pas, 10 ans, quelque chose comme ça à l'époque, j'avais l'impression que ça n'existait pas. Donc, l'entendre, ça a vraiment provoqué un choc chez moi.
C'est comme...
Les organisateurs l'ont appelée la manif pour tous, mais elle est surtout suivie par une partie de l'Église française, une partie de la droite et de l'extrême droite.
Coming out.
Vous avez choisi de protester contre la reconnaissance des droits de ces couples, c'est votre affaire. Nous, nous sommes fiers de ce que nous faisons.
Si vous êtes pris de désespérance, restez avec nous et gardez la tête haute. Vous n'avez rien à vous reprocher. Nous le disons haut et clair, à voix puissante. Les vérités tuent, celles que l'on tait deviennent vénéneuses.
Vous vous souvenez du jour, Jean-Baptiste Fou, où vous annoncez à vos parents que vous aimez les garçons?
Oui, je m'en souviens bien parce que j'étais adolescent. Je devais avoir peut-être 15 ans à l'époque. Et ça s'est passé dans un contexte pas très joyeux, parce que j'avais fait la rencontre d'un homme sur le Minitel. À l'époque, c'était le Minitel. Et donc, cet homme-là m'avait menacé si je ne couchais pas avec lui, si je ne faisais pas certaines choses, parce que je n'en avais pas envie. En fait, quand on s'est vu, parce qu'il n'y avait pas d'image, pas de photo, il n'y avait rien de tout ça à l'époque. Donc, la surprise, quand on ouvre la porte, voilà.
Et là, la surprise du chef.
Exact. Et pour moi, ce n'était pas une bonne surprise, donc je n'avais pas envie. Mais cette personne-là m'avait menacé de me dire, voilà, si tu ne couches pas avec moi, j'appelle chez toi et je raconte tout à tes parents. Et donc moi, par peur qu'il le fasse, je me suis dit, je vais le devancer. Et donc, quand je l'annonce à mes parents, leur réaction n'est pas tellement réconfortante, parce que mon père ne me parle plus pendant plusieurs mois. Et puis ma mère me dit que ça va se guérir en m'emmenant chez le médecin.
Tu te marieras avec une femme chinoise, c'est ce que vous dit assez jeune, hein, quand vous êtes assez jeune, votre mère, parce que, évidemment, dans leur tête, votre avenir affectif, il est tout tracé.
Oui.
Alors là, on entendait à l'instant un extrait de la loi autour du mariage pour tous avec Christiane Taubira. C'est une archive que vous avez demandée, oui. Jean-Baptiste. Mais il faut dire qu'à l'époque où vous découvrez votre sexualité, on est encore en 87, on peut entendre ce genre de propos sur les plateaux télé.
Je crois que le sidaïque, si vous voulez, j'emploie ce mot-là, c'est un néologisme, il n'est pas très beau, mais je n'en connais pas d'autre. Celui-là, il faut bien le dire, est contagieux par sa transpiration, ses larmes, sa salive, son contact.
Si
c'est une espèce de lépreux.
Signé, faut-il le rappeler, Jean-Marie Le Pen, président du Front National à l'époque, c'est-à-dire, Jean-Baptiste, que votre vie amoureuse, elle démarre dans ce contexte.
Tout à fait. Et c'est un peu triste de se dire qu'en tant que jeune gay, ce qu'on entrevoit, ça va être forcément un drame. Ça va être lié à une maladie, ça va être lié à un stigmate.
C'est un paria.
Oui, exactement. Et là, c'est Jean-Marie Le Pen qui le dit, mais c'est aussi dit dans plein d'autres contextes, dans la rue, au sein de la famille, dans les médias, à la télé. On se dit, notre avenir, il ne va pas être drôle du tout. Et être gay, ça va être synonyme de souffrance.
Alors justement, vous la racontez, cette souffrance, beaucoup de solitude aussi. Une traversée du désert qui va consister à trouver refuge dans un premier temps auprès de la communauté. Et par exemple, vous faites...
Je fronce les sourcils.
Oui, je vois bien. On va en parler sans doute. Parce que vous faites à un moment donné les travaux d'approche dans les bars gays du Marais à Paris.
Parmi les grands types baraqués, habillés à la dernière mode, dans des t-shirts moulants et se déhanchant sur des sons techno, je détonnais. Moi, le banlieusard complexé, l'ado maigrichon flottant dans des vêtements trop larges et caché derrière des lunettes épaisses, je rasais les murs, totalement invisible. Mais mon allure n'était pas seule en cause. Quel que soit le moyen de rencontre, dans les bars ou par le Minitel qui vivait ces dernières heures, une phrase revenait constamment. Désolé, pas branché asiatique. Aux yeux de ceux que je rencontrais, c'est tout ce que j'étais, asiatique. Et apparemment, c'était situé tout en bas de l'échelle du désir. Sous couvert de préférence, chacun y allait de son commentaire raciste. Vous vous ressemblez tous, vous êtes tous passifs, vous avez des petites bites.
Voilà, c'est ce que vous écrivez, Jean-Baptiste Fou, dans « La couleur du désir » en 2020 et que vous rapportez dans la peau hors du placard, donc qui sort actuellement aux éditions du Seuil. Bon, là, on y est, hein. On est dans l'intersectionnalité. Vous subissez racisme et discrimination pour des raisons à la fois liées au genre et liées à l'origine.
Oui, enfin, moi, je rentre dans la communauté en pensant trouver une communauté qui va m'accueillir, dans laquelle je vais pouvoir trouver refuge, parce qu'il y a cet environnement hostile, hein, cette société hétéronormée et homophobe. Et là, je me prends cette claque. Je ne réalise pas du tout, en fait, qu'à l'intérieur même de cette communauté qui est censée être bienveillante, il y a ces formes de violence qui sont notamment le racisme et la discrimination raciale.
Oui, et puis il y a, et j'avoue que j'apprécie beaucoup l'authenticité avec laquelle vous prenez la plume, même pour parler de cette communauté que vous regardez avec bienveillance mais à distance. Vous expliquez qu'il y a une injonction dans la communauté gay à incarner par exemple le surhomme. Vous dénoncez même cette culture du sexe chez les gays, on pourrait même dire du viol.
Oui, je crois qu'il y a quelque chose vraiment à aller interroger, surtout aujourd'hui, parce qu'on est en train vraiment là de parler de violence systémique. Et quand je dis cette culture du viol, voire cette culture du sexe, elle est interrogée effectivement parce que dans notre façon de socialiser, le sexe est ultra présent. Je sais que notamment dans le milieu gay, on critique des applications comme Grindr en disant bah, c'est le supermarché du sexe, etc. Mais on les pratique aussi. Ces lieux-là, les lieux de drague, les saunas, les backrooms, etc., c'est des lieux qui existent, que l'on fréquente. Je veux dire, d'un côté, on les pratique, c'est pas problématique en soi, mais c'est à l'intérieur de ça, c'est en fait la façon dont on interagit à l'intérieur de ces espaces-là, où il y a une très grande violence, notamment envers des personnes plus jeunes, plus vulnérables, notamment pour signifier l'attrait vers quelqu'un. Bah, généralement, dans ces lieux-là, si on va le plaquer contre un mur, on va essayer de lui attraper le sexe, les fesses, on va essayer de la toucher, mettre sa langue dans sa bouche. Et donc ça a interrogé, effectivement.
Vous dites que c'est l'heure d'un MeToo gay.
Oui, qui commence à arriver. On parle du MeToo garçon qui est là. Il y a eu une tentative de MeToo gay dans l'élan du MeToo il y a quelques années qui n'a pas pris. Mm-hmm. Là, il y a une vague de MeToo garçon qui arrive, qui est encore un peu timide. C'est peut-être la répétition des voix qui vont commencer à s'élever, qui vont faire que bah, ça va prendre une autre ampleur.
Voilà. Alors, ce que vous racontez aussi, c'est que la communauté gay n'est pas exempte de préjugés elle-même, hein, puisque, à ses yeux, souvent, le gay asiatique ne peut être que passif.
Oui, passif, c'est une des choses, mais c'est tout ce qui va avec. C'est-à-dire, ne peut être que une petite chose, frêle, imberbe, soumise, mal montée. Et donc, voilà, c'est tout cet imaginaire-là qui est véhiculé autour de l'homme asiatique. Mais oui, c'est une espèce à la fois d'une part de rejet sur ses origines et puis de l'autre côté de fétichisation pour certains qui vont adorer cet imaginaire des faibles androgynes.
Alors, ce qui est joli, c'est que vous dévoilez finalement les différentes périodes que vous traversez dans cette autre quête identitaire. Hein. Vous vous déclarez explorateur des peuples du monde à travers le sexe. Bah oui, c'est assez joli, c'est bien vu, hein, parce que vous allez vivre en Espagne, vous allez vivre à Singapour, vous vous baladez pas mal. Vous avez une période de boycott des Blancs, vous allez y revenir ensuite. Hein. Vous avez même une période où... tout pour ne plus ressembler à un jaune, je vous cite.
Oui, oui. Ah non, mais je suis passé par plein de phases. Ce n'est pas tout à fait glorieux hein, de ma part, mais je pense que c'est important d'être sincère, y compris avec ses propres biais, pouvoir s'examiner soi-même, parce que ça serait plus facile de uniquement se poser en tant que victime, d'avoir subi du racisme et de dire voilà, c'est la faute des autres.
Vous n'êtes pas clair vous-même, hein, voilà. avec ni votre origine, votre orientation sexuelle, ni avec votre origine asiatique.
Mais
vous escalopez, comme on dit. Vous esquivez.
Oui, mais je navigue avec. Je pense que c'est ça qui est intéressant, à la fois de vivre ces choses-là, mais aussi à posteriori d'y porter un regard. Parce que c'est pas simplement moi et mon histoire qui est intéressante, c'est qu'est-ce que ça raconte sur la société aussi, surtout.
Mais il y a un petit vent quand même, hein, un petit vent MeToo d'une manière générale. Pourquoi vous vous êtes, si j'ose dire, engouffré dans cette problématique, Jean-Baptiste Sepou ?
Parce que je pense qu'on a aussi une responsabilité, nous, en tant que personnes minorées, notamment la voix des Asiatiques, qui n'est pas assez entendue dans l'espace public. Les Asiatiques, on a souvent cette image qu'ils sont là dans leur coin, ils disent rien, ils sont discrets, on ne sait pas ce qu'ils pensent, etc. Et puis je sais que beaucoup dans la communauté asiatique, dont je fais partie, se plaignent de ça, disent « Ah, mais on ne nous voit pas, on n'est pas représenté ». Oui, mais bon, qui parle ?
Et donc la peau hors du placard aux éditions du Seuil. Une dernière question, qu'en est-il du regard sur les homosexuels au Cambodge ?
Là-bas, la question est assez différente parce qu'il y a certes des discriminations et une espèce d'homophobie, de transphobie qui existent, mais ce ne sont pas du tout des manifestations frontales. Alors ça, c'est de façon générale. On montre assez peu de l'affection ou des gestes dans la rue, dans les espaces publics. Donc, les couples ne s'affichent pas. Et puisqu'il y a une frontière entre le privé et le public, finalement, au Cambodge, les gens font ce qu'ils veulent chez eux, ça ne nous regarde pas, tant que c'est chez eux.
Oui, c'est ça.
Y compris l'homosexualité. Et donc, il n'y a pas de guet-apens homo, on ne va pas aller casser du PD, des choses qui peuvent se passer en France ou dans d'autres pays.
Et pas de loi qui criminalise non plus l'homosexualité.
Tout à fait. Oui. Alors, il n'y a pas non plus de loi pour le mariage pour tous, mais de l'autre côté, pas de loi qui criminalise.
aimez la magie? Je suis très heureux et très honoré d'être avec vous aujourd'hui dans le lieu le plus magique de France.
M comme métamorphose.
Alors, on n'est ni dans la magie, on est sur RFI, du côté d'un sol majeur. On n'est pas non plus dans le surnaturel, on est peut-être dans la métamorphose avec vous, Jean-Baptiste Poux, dans la chrysalide, peut-être devenue papillon. Est-ce qu'à 40 ans, vous êtes toujours in the mood for love?
Oui, toujours. Je pense que ça, j'ai jamais renoncé, malgré ces débuts compliqués, à l'amour que j'ai d'ailleurs trouvé, finalement.
Alors,
bon, je le raconte dans le livre, donc je peux en parler, c'est pas un secret. Mais voilà, je suis en couple depuis déjà plus de 10 ans. Mais c'est quelque chose que je considère toujours précaire. Notamment, bah, moi, je sais qu'on n'est pas un couple traditionnel dans le sens où je vis au Cambodge, je vis à Paris. Il y a des choses qui sont toujours là à construire, à réinventer. Mais moi, ça me convient comme ça.
Alors, avec toutes vos questions en tant que multi-minoritaire, on pourrait dire ça comme ça, vous avez trouvé, je le sais, des réponses auprès notamment d'une célèbre autrice qui n'est pas forcément une afropéenne, mais qui en parle bien.
Qu'est-ce qu'une afropéenne? C'est une personne européenne par son vécu, par sa culture, mais qui a des ascendants africains subsahariens. Ça ne veut pas dire qu'on ait forcément une relation profonde avec l'Afrique. On peut, mais pas forcément. Mais ça signifie en tout cas qu'on reconnaît cette filiation et qu'on ne veut pas choisir entre son appartenance à l'Europe et sa filiation africaine, et que donc on décide de mêler les deux pour inventer une nouvelle identité.
Léonora Miano au micro de France Culture et dans votre En Sol Majeur, Jean-Baptiste Fou. De quelle manière elle vous aide à penser l'identité?
Léonora Miano, c'est une écrivaine que je vénère, avec qui j'ai travaillé notamment sur La Poire du Placard, c'est elle qui l'a édité. Là, l'extrait que vous avez passé, je pense, parle de son essai Afropéa, mais pour moi, Léonora Miano, c'est pas simplement les histoires qu'elle raconte, mais c'est, comme vous disiez, sa pensée. Si on veut se dire qu'on incarne l'humanité en tant que minorité, donc là, elle parle notamment des Noirs.
Rien que ça.
il faut accepter que l'humanité, c'est tout le spectre de l'humanité, dans le meilleur comme dans le pire. Et ça, on l'entend suffisamment peu, y compris chez les Asiatiques, y compris chez les gays. Il ne faut pas imaginer que les gays se sentent simplement des victimes d'un système qui les oppresse. Non, les gays aussi ont ces comportements qui peuvent à leur tour devenir des oppresseurs.
Mais ce qu'elle dit aussi d'intéressant sur la question de l'identité, quand on est au carrefour comme ça de plusieurs appartenances possibles, c'est la possibilité de ne pas choisir.
Oui, de naviguer ou d'inventer autre chose.
Et alors, qu'est-ce que vous inventez, vous? Vous pensez être un inventeur?
Moi, j'invente ma vie. Je trouve que c'est déjà suffisamment beaucoup. Mais je prends beaucoup de liberté parce que je ne me considère pas comme étant quelqu'un qui doit suivre certains codes du cinéma, de la littérature ou de je ne sais quoi. J'écris comme j'ai envie et j'invente ma propre vie, notamment si ce soit ma façon de vivre mon couple, ma sexualité. Enfin voilà, c'est tout ce que j'ai envie de faire, c'est de pouvoir naviguer dans toutes ces différentes formes et d'en faire ce que je veux.
Je suis comme je suis. Qui disait ça?
Je ne sais pas.
Prévert. Ah. Quatre femmes de différentes générations, issues de la diaspora cambodgienne, qui se croisent le temps d'une démarche administrative au consulat du Cambodge à Paris. Elles sont en chien de faïence un peu entre elles. Elles se toisent, se déchirent, mais elles s'amusent en même temps de leur expérience d'intégration et aussi de la relation à leur terre d'origine et à leur pays d'adoption. Je parle de votre pièce « Cambodge, me voici » qu'on va écouter dans sa version khmer, mais d'abord dans sa version française.
Avez-vous déjà été mariée?
Non. D'ailleurs, j'ai ici un papier qui le prouve.
Peu importe.
J'étais française et rien d'autre. C'est ça la réussite d'intégration de ma mère? On m'avait même rebaptisée Marie. J'ai une tête à m'appeler Marie. Ils ne sont que jeunes, pleurnicher, quémander.
Je Je
ne sais pas si tu es un peu plus grand. Je ne sais pas si tu es un
peu plus grand.
Je ne sais pas si tu es un peu plus grand. Je ne sais pas
Bong nes man tai than suon nei
chai. Cambodge, me voici, écrit et mis en scène par vous, Jean-Baptiste Fou, dans sa version française en 2011, dans sa version khmer en 2012, ou comment la création vous fait mettre le pied dans une double intégration et dans la plénitude de vos appartenances. C'est génial d'en arriver à ce point G, j'allais dire, de la création, si je peux me permettre. Alors, on se fait plaisir. La question à l'auteur et au metteur en scène, comment vous avez vécu cette expérience? De quoi naît cette idée de pièce?
C'était une expérience vraiment magique pour moi, parce que c'était déjà ma première écriture. Et pour moi, j'ai vraiment eu une évolution même artistique, parce que comme c'était la première fois que je faisais ça en France, la première mise en scène était très minimaliste. Il y avait 4 chaises, hein, le fameux tableau encore Watt, qui était dans mon salon, que j'ai mis comme décor pour cette pièce de théâtre.
Vous faites feu de tout bois.
Ah ben oui. Et quand je suis allé au Cambodge, là, j'avais plus de moyens parce que j'étais soutenu par l'Institut français du Cambodge.
Mais c'était quoi l'idée de la pièce?
L'idée, c'était d'aborder tous ces tabous, tous ces silences liés à l'histoire du Cambodge, à l'histoire de notre présence en France. Donc, cette fiction, quelque part, c'était si on pouvait se parler, qu'est-ce qu'on se dirait?
Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez dû batailler sur la question de la censure, parce que forcément, il y en a toujours au Royaume. La notion de corruption, par exemple, qui apparaît dans votre texte, comment vous l'avez traduite en khmer?
Ça, c'est drôle parce qu'au Cambodge, effectivement, on pouvait, mais bon, on prenait des risques en le faisant, donc parler de corruption, de donner des billets, etc. Donc, on a un peu joué sur les mots et donc glisser des billets sous la table, c'est devenu offrir le thé.
Et tout le monde comprend.
Tout le monde comprend ce que ça veut dire. Ou offrir le café, ou offrir une soupe de nouilles, ça dépend des goûts de la personne qui vous reçoit.
Merci Jean-Baptiste Fou de cette belle visite en sol majeur. Émission, vous le savez, à retrouver en podcast, je suis sûre que vous êtes podcast, sur Pure Radio. Tiffany Manta, Diego Tenorio, Théo Raison, Yasmine Chouaki. Nous, on vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures en sol majeur. Dans un instant, votre journal, suivi de tous les cinémas du monde.